Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti.
L'heure est venue de déballer les cadeaux, c'est aussi l'heure du grand déballage. Puisque consumérisme, patriarcat et blanchité festoient comme chaque année au pied du sapin. Alors on va se mémériser cette semaine avec toi Pauline, salut.
Salut Clémentine.
Puisqu'on va se demander si le féminisme est soluble dans les films de Noël. Alors Noël n'est pas une donnée universelle, hein, on le rappelle, quoi qu'en dise notre cher Premier ministre. Et d'ailleurs, dans la série Newport Beach, les personnages fêtent ce qui s'appelle Chrismukka, c'est-à-dire un mélange de Noël et de Hanouka.
Christmas or Hanukkah?
Don't worry about it, buddy, because in this house, you don't have to choose. Allow me to introduce you to a little something that I like to call Chrismukka.
Chrismukka.
That's right, it's a new holiday, Ryan, and it's sweeping the nation.
Ouais. En tout cas, la fête de Noël reste un motif dans la culture.
Oui, c'est pour ça que cette semaine, on a décidé de vous parler de films de saison, comme les fruits de saison, à savoir les films de Noël. Donc, en fait, moi, j'ai jamais été une grande amatrice du genre, mais bon, on a décidé d'en parler parce que c'est quand même une sorte d'institution qui va charrier et même construire un certain nombre de représentations du genre, du couple, de la famille, par exemple. Donc, on a jugé que c'était intéressant. Et avec Clémentine, on vous a concocté une petite liste de films en essayant d'apporter un regard critique sur cette tradition cinématographique.
Oui, tu l'as dit, ces fictions sont souvent un reflet de la société, mais ce sont aussi des représentations qui, à l'inverse, contribuent à forger ces normes sociales. Donc, on va se pencher un peu dessus. On va commencer par un film qui est dans l'actualité et qui vient de sortir. C'est Happiest Season, qui est disponible en France en VOD, qui s'appelle en VF Ma belle famille, Noël et moi. Tout un programme.
C'est un titre très ennuyeux par rapport à l'autre.
Comment tu peux ne pas aimer les lumières et les décors?
C'est magnifique. Viens avec moi. Viens chez mes parents pour la fête de Noël.
Et c'est pour l'instant le film qui a été le plus vu sur la plateforme Hulu où il est diffusé aux États-Unis. Il est réalisé par la comédienne et cinéaste Cléa Duval. Et on y retrouve Kristen Stewart et Mackenzie Davis. Alors ce film appartient au genre qu'on appelle Meet the Parents en anglais, c'est-à-dire rencontre avec les parents, par exemple comme Mon beau-père et moi. Sauf que là, le film adopte le point de vue de la pièce rapportée, qui est donc Abby, une jeune femme qui veut demander en mariage sa copine, Harper. Celle-ci l'invite en vacances dans sa famille pour fêter Noël, mais il s'avère qu'elle n'a pas fait son coming out auprès de sa famille, ni prévenu sa copine de cet épineux problème.
Est-ce que tout va bien ?
Ouais. Il y a juste un petit souci. Ses parents savent pas qu'on est ensemble ou même qu'elle est gay.
Alors quoi, ses parents pensent vraiment que leur fille hétéro a ramené à la maison son amie lesbienne ?
Ils pensent aussi que je suis pas gay.
Est-ce qu'ils ont déjà rencontré une lesbienne ?
Voilà, donc c'est assez horrible en fait, le comique de situation qui se met en place autour de la pauvre Abby qui s'empêtre dans les mensonges et qui doit se dissimuler littéralement dans le placard. Ça interroge également l'atavisme familial, la reproduction de classe, puisque le film prend aussi à rebours le stéréotype qu'on voit d'habitude de la personne qui rentre dans sa petite ville retrouver sa famille et qui retrouve l'authenticité et l'amour. Là, c'est l'inverse. Elle retrouve une petite ville homophobe et étriquée.
C'est clair, c'est l'oppression.
C'est ça. Bon, on apprécie quand même de voir qu'il n'y a pas qu'un seul personnage queer, mais plusieurs personnages qui développent aussi des amitiés, comme le meilleur ami gay de Abby, qui va se retrouver à devoir faire semblant d'être son copain. Abby qui va sororiser avec une ex de Harper, qui est jouée par Aubrey Plaza. Voilà, toi, tu en as pensé quoi
Un des meilleurs passages, d'ailleurs.
De cette comédie de Noël. Je ne sais pas si c'est vraiment une comédie romantique.
Ouais, bah écoute, en dehors du fait que ce soit bienvenu d'avoir enfin une romance de Noël lesbienne grand public et que le paysage cinéphile français en manque cruellement, et outre que j'aime évidemment toujours d'amour Kristen Stewart, j'ai personnellement pas du tout aimé le film. En fait, j'ai eu l'impression que la réal s'était convaincue que le simple fait de montrer des lesbiennes à l'écran l'autorisait à manquer de subtilité sur les autres parties du film et sur tout le reste, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle tombe vraiment, en fait, dans les travers classiques du film de Noël mainstream. J'ai trouvé qu'il y avait des gros clichés mais qui vraiment frisait mais le sexisme, avec notamment les portraits ultra stéréotypés des sœurs de Harper qui sont très monolithiques. T'as la vieille fille mal aimée, persécutée par la famille, qui passe pour une écervelée. La sœur maniérée, mariée et mégère, en compétition permanente avec Harper, en mode catfight, et en plus qui va la outer, enfin voilà.
Ouais, l'horreur. Mais surtout qui a fait une reconversion manuelle dans les paniers
de Noël.
Les paniers cadeaux pot pourri.
Oui, c'est ça. Donc franchement, gros trigger warning lesbophobie dans ce film, même si ça se veut être ambiance Noël, mais quand même, enfin vraiment, c'est une addition de commentaires oppressifs. Et donc, sans parler de la mère, qui est vraiment la caricature de la rigidité, la froideur, enfin la mère austère.
C'est le petit ami du secondaire de Harper. Est-ce que tu as un petit ami, Abby?
En fait, je viens tout juste de rompre.
Oh non!
Avec, c'était un poseur, il posait des portes.
Okay.
Donc bref, tous ces portraits de meufs problématiques sans aucune nuance qui, moi, m'ont presque mise en colère en vrai. Et donc, heureusement, bon, la conclusion est mignonne, les choses finissent par s'apaiser, tout le monde se réconcilie.
C'est quand même Noël,
c'est quand
pas.
Même Noël. Il y a effectivement une scène où on explique pourquoi c'est ok de ne pas faire de coming out, qui est une scène assez belle et qui est nécessaire. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a peu de choses à sauver et je trouve qu'on mérite vraiment mieux en termes de film queer de Noël. Et en plus, ça pourrait être cool déjà, par exemple, de représenter des histoires où ça se passe bien, ou simplement où l'orientation sexuelle n'est pas le sujet du film. Mmh. Voilà. Toi, t'en penses quoi ?
Oui, alors pour récapituler, on va donner quelques petits points. Je pense qu'on peut donner un point à toutes les vestes que porte Kristen Stewart oui. lors de toutes tes soirées de Noël. Un point également pour Aubrey fout la merde Plaza.
À savoir l'ex de Harper.
Voilà. Un point également pour la super chanson de Noël de Tegan and Sarah. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la sœur Jane, donc célibataire qui fait du do-it-yourself. Moi, je suis plutôt team Jane.
Non, mais je la trouve touchante, mais je trouve juste qu'on dirait qu'elle a qu'un seul trait de personnalité.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Un bonus aussi pour le meilleur pote de Abby, qui est joué par Dan Levy de Schitt's Creek, qui est la voix de la sagesse et qui explique que le coming out, en fait, est différent pour chacun et chacune et qu'on peut aussi souhaiter ne pas en faire ou ne pas le faire tout de suite. Mais alors, donc, gros bémol, tu l'as dit, encore une histoire de coming out. Donc, pitié, donnez d'autres récits aux personnages LGBT+.
Je vais tout leur dire après les fêtes de toute façon. Tu sais à quel point c'est douloureux de voir la personne que j'aime choisir de me cacher. Je ne te cache pas du tout. C'est moi que je cache.
Gros bémol aussi pour le casting majoritairement blanc, puisqu'ils ont simplement casté le beau-fils qui est noir et les enfants métis qui sont complètement fétichisés. Donc au secours. Voilà, donc pour résumer, le score Esprit de Noël n'est pas très cosy, notamment en raison des micro-agressions lesbophobes. Alors on passe à la suite.
Déception.
Il faut rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas moins de 2 chaînes spécialisées dans le sous-genre qu'est le téléfilm tintinabulant de Noël. C'est les chaînes Hallmark et Lifetime. Et même ces networks qui sont assez conservateurs commencent quand même à s'intéresser à leur public assez varié et à diffuser des romances gays. Par exemple, cette année, on peut citer The Christmas House et The Christmas Setup. Évidemment, ce sont des films très chastes, sans nudité, et je vous invite à vous référer à l'article d'Aline Maillard qui en parle chez Chic. On peut aussi rendre hommage ou fémage à notre consoeur Hélène Guinut, qui est une grande spécialiste émérite du téléfilm de Noël et qui a même conçu un bingo. Et donc, quand on regarde la télé, on peut cocher les cases. L'héroïne rentre à la maison. Une scène de patinoire, le Père Noël apparaît.
Mais d'ailleurs, c'est symptomatique parce que tout ça se retrouve dans Happiest Season,
exactement.
Justement. Et moi, le film m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a quelques années qui est Bad Moms 2, donc la suite de Bad Moms, le film des réalisateurs Scott Moore et John Lucas, avec 3 mères qui se débattent avec l'injonction à organiser de belles fêtes de Noël, entre la charge mentale des cadeaux, la déco, la cuisine, les enfants, et on y suit les personnages joués par Mila Kunis, Kristen Bell et Catherine Hahn, qu'on voit aux prises avec leur mère, qui sont elles-mêmes des caricatures.
J'ai toujours adoré Noël, mais quand on est maman, c'est beaucoup de travail. Entre les courses, les paquets à faire, la cuisine, la décoration...
Tout ça, on ne boit pas l'eau du sapin parce qu'on est des humains.
Oh Seigneur, faites-le taire, par pitié.
C'est en ça que Happiest Season m'a fait penser à Bad Moms. C'est le côté galerie de portraits féminins, mais qui sont tous plus problématiques les uns que les autres. Avec la mère méchante qui critique tout, celle qui se prend pour la meilleure amie de sa fille, qui est hyper gênante, la hippie qui néglige la sienne d'une manière scandaleuse. Donc voilà, après j'avais bien aimé le côté girls band de ce film de Noël et le casting était bien sûr... super. Mais bon, c'était encore un peu trop conventionnel à mon goût. Toi, t'as une autre référence ?
Et où sont les hommes pendant que le sapin de Noël est décoré ?
C'est clair.
Ils sont au turban. Et oui, voilà.
Ou sur le canapé.
C'est ça. En train de se gratter les couilles. Moi, je pense à deux fictions, la série Home for Christmas et le film Holiday, qui parlent chacun de l'injonction à se maquer. C'est ce que la psychologue états-unienne Bella DiPaolo appelle le matrimonisme, qui va de pair avec une dépréciation de la femme seule. Donc la série Home for Christmas, c'est une série norvégienne qui suit une jeune infirmière à qui sa famille met la pression pour se maquer absolument et surtout emmener un mec au repas de Noël. Et la série subvertit assez bien ce schéma-là. D'ailleurs, la saison 2 vient de sortir. Voilà, on va la regarder.
Ma mère m'a placée en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. Depuis, j'élabore une stratégie et bientôt, je dirai une phrase qui aura un gros impact sur moi et sur quelques autres personnes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
Sérieux ?
Quoi ?
Il faut que tu nous le présentes bientôt.
Amène-les à Noël. C'est donc comme ça que je me suis mise dans la merde.
Il y a également Holiday, un film de Noël assez médiocre, assez convenu, dans lequel une jeune femme va devoir emprunter un mec parce qu'elle ne veut plus aller seule aux fêtes de famille où on lui met la pression, où elle se retrouve toujours à dîner à la table des enfants. Ça, c'est encore un exemple de la manière dont Netflix a investi le créneau de Noël avec des productions assez niaises et au rabais comme Christmas Prince et Let It Snow, voilà, dont on peut quand même se passer.
Ouais, c'est clair. Et c'est aussi clair que le film de Noël, c'est le festival des normes familiales et conjugales cis-hétéro. Hein, c'est peu de le dire. On repense aussi au classique Love Actually de Richard Curtis avec Liam Neeson, Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley et Matt Hanson qui vient de ressortir sur Netflix.
Oh mon dieu.
Ok, allons-y. Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
Et que moi j'ai vu et revu pendant des années avec mes parents et mes frères et sœurs.
La fête de l'hétérosexisme à tous les étages.
Et dont j'ai découvert tardivement les aspects problématiques. Donc c'est terrible parce que c'est vraiment un des films qui a modelé ma perception des normes romantiques, justement. Mmh. Après, il y a des choses qui sont mignonnes, hein, mais encore une fois, la majorité des histoires mises en scène sont perçues à travers les yeux d'un homme. Et apparemment, il ne passe absolument pas le test de Bechdel. On n'est pas surprise. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais deux femmes parler entre elles d'autre chose que de mecs. Grande originalité, donc il y a le mec qui se tape sa secrétaire, l'autre qui se tape sa femme de ménage.
En plus, ils parlent même pas la même langue. Mais c'est pas grave, il est quand même amoureux d'elle.
Oui, il me semble qu'elle est portugaise et qu'elle parle mal anglais et c'est exotisé aussi. Enfin,
il y a un vieux rapport de pouvoir.
C'est ça. Et je me souviens qu'à un moment, il y a les feuilles du roman que le mec est en train d'écrire qui volent dans les airs et les chercher dans le lac et qu'elle se déshabille.
Oh,
et qu'il y a un vieux plan qui remonte le long de ses jambes et de ses fesses. C'est magnifique, voilà. Grand exemple de male gaze du cinéma de Noël.
Pas de repos, même à Noël.
C'est un peu male tears aussi, quoi. Les hommes sont présentés comme des petites choses qui se consument d'amour, mais bon, on n'est pas dupes. Il y a quasiment zéro female gaze, comme je l'ai dit. Et sinon, dans les classiques des années 2000, je voulais citer Family Man, dont je regardais la VHS tous les ans aussi.
Ça donne envie.
En fait, c'est un film dans lequel Nicolas Cage joue un businessman célibataire, endurci, qui se retrouve téléporté à Noël dans la vie de famille plus modeste, mais remplie d'amour, qu'il aurait eu s'il était resté avec sa petite amie de la fac. Bon, je sais pas si ça serait aussi bien si je le revoyais aujourd'hui, mais c'était mon péché mignon quand j'étais ado.
Mmh. Ouais, moi c'était plutôt La vie est belle, hein, de Frank Capra,
oui.
Qui est finalement un film pas hyper respectueux du consentement quand on le revoit. Moi j'aurais plutôt tendance à recommander Carole de Todd Haynes, qui est mon film de Noël lesbien préféré. En même temps, le choix est assez limité.
C'est clair.
Donc Cate Blanchett et Rooney Mara, ils jouent la rencontre d'une ingénue, Thérèse, employée d'un grand magasin, et d'une cliente, Carole, donc femme de la bonne société new-yorkaise, assez énigmatique. Et le film est tout en apparence et en réflexion, il est à la fois tendre et assez cruel. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés.
Ma chérie, il n'y a pas de hasard. Et je n'ai aucune explication satisfaisante à t'offrir.
Joli chapeau.
Ouais, c'est vraiment un film magnifique qui se passe effectivement dans le contexte de Noël, mais bon, c'est juste le décor finalement. Je crois, si je me souviens bien, qu'elles vont partir toutes les deux dans une sorte de road trip pour explorer leur attirance qui au début est plus dans la retenue et la séduction et qui va petit à petit laisser place plus à une forme de passion. Mais ça va aussi raconter les obstacles faits à leur amour dans le contexte des années 50 aux États-Unis, avec la nécessité évidemment de se cacher à cause des normes sociales et dans un contexte aussi où Carole est prisonnière d'un mariage passage où le mari la menace de la priver de voir sa fille, notamment. Donc c'est intéressant.
Ouais, c'est un bon exemple de female gaze, combien même le film est réalisé par un homme.
Ouais, donc,
on voit que c'est pas forcément antithétique, surtout quand cet homme est Todd Haynes. Voilà.
Et en alternative indé au film pourri, on voulait aussi vous suggérer Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, sorti en 2008.
Chaud d'ambiance.
Voilà, donc c'est un film qui raconte la réunion d'une famille à Noël autour d'une mère malade, Catherine Deneuve, avec un très beau casting, donc Chiara Mastroianni, Mathieu Amalric, Melville Poupeau, Emmanuel DeVos. Beau casting d'acteurs et actrices français et françaises.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein.
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés.
Mais que vous êtes bizarre dans ta famille.
Évidemment, ça tourne à l'affrontement entre les conflits larvés entre frères et sœurs qui éclatent, le ressentiment envers les parents, les problèmes conjugaux. C'est pas tout à fait feel good, mais au moins, c'est un film qui questionne les aspérités de la famille et de ses représentations. Moi, j'adore. Je sais pas si t'approuves cette recommandation.
Ouais, recommandation spéciale pugilat familiale. Voilà. Sachez également que Sofia Coppola a commis un petit film de Noël qui s'appelle Very Merry Christmas. C'est ce qu'on appelle un vanity project. Donc un projet un peu pour se faire plaisir, donc assez complaisant, mais quand même assez délectable, puisque ce cabotin invétéré de Bill Murray susurre des standards de jazz au micro. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Donc, le score Esprit de Noël du film n'est pas top, puisque l'acteur est quand même accusé de violence conjugale par son ex-femme. Donc, voilà. Pas très Noël, tout ça. Mais quand même, on donne une boule de Noël, pour être gentil, au caméo de Miley Cyrus en Mère Noël.
Oui, il y a Miley Cyrus
c'est
dedans.
Improbable.
Ouais. Et on parlait en début d'épisode de la blanchité des personnages dans les films de Noël. Bizarrement, à Noël, tout le monde est blanc dans tous les films. Bon, il y a quelques exceptions rares. Là, en ce moment, il y a Jingle Jangle, A Christmas Journey. Donc, c'est une comédie musicale pour enfants avec Forest Whitaker et une petite fille qui est jouée par Madeleine Mills, qui veut devenir inventrice.
Il était une fois un homme qui était le plus grand inventeur du monde. Jeronicus Jangle.
Ça va être un joyeux Noël, en effet.
Il y a aussi le docu Casse-Noisette Revisité. Donc, c'est un documentaire qui retrace en fait la production d'une comédie musicale produite par la Debbie Allen Dance Academy à Los Angeles et qui suit en fait la figure de Debbie Allen. Donc, c'est cette femme noire pionnière de la danse aux États-Unis qui a notamment joué dans Fame.
I mean, this woman has choreographed the Oscars 10 times.
As a young girl, the Nutcracker was so important to me. But I decided to take it on with different styles of dance and music.
Et sinon, il y a quelques essais avec des personnages non blancs en personnages principaux aux États-Unis, donc avec les films comme Last Holiday, The Holiday Calendar ou My One Christmas Wish, mais ça se compte sur les doigts d'une main, j'ai l'impression.
Oui, moi c'est vrai qu'à titre personnel, je vous recommanderais le premier si vous avez des enfants autour de vous, puisque il a quand même le mérite d'exister, c'est un mélange des genres assez curieux. Moi, j'ai vraiment bien aimé le documentaire sur la danse, que j'ai trouvé très chouette, alors que le sujet me parlait pas spécialement. Mais c'est vrai que je connaissais pas très bien le parcours de Debbie Allen, donc j'ai trouvé ça chouette. Je recommanderais aussi un film qui s'appelle Happy Christmas de Joe Swanberg. Alors, Joe Swanberg, c'est un peu la figure de proue d'un mouvement indé qu'on appelle le Mumblecore aux États-Unis. C'est un film de 2014 avec Anna Kendrick et Lena Dunham qui raconte cette période un peu de flottement, de régression quand on rentre chez soi et qu'on zone pendant les vacances de Noël et qu'on essaie un peu de remettre sa vie à plat avant la nouvelle année. Plus sémillant, il y a aussi la série Dash et Lily sur Netflix qui est adaptée d'un livre young adult, donc d'un livre pour jeunes adultes. C'est une série où le personnage principal féminin est un peu en décalage et un peu à l'ouest, sans être pour autant un monstre, et où heureusement, personne ne lui demande de faire de make-over pour plaire au prince charmant. Voilà, c'est l'histoire d'une fille qui va laisser un carnet dans une librairie avec des indications adressées à quelqu'un qui tombera sur ce carnet. Et évidemment, un garçon va tomber sur ce carnet et une relation épistolaire se met en place entre ces deux personnages à New York pendant Noël.
Imagine que tu es à New York et que c'est bientôt Noël. Tu es dans ta librairie préférée. Et là, tu tombes sur un carnet rouge. tes capes.
Donc voilà, c'est très joli. Et en plus, bonus, les hétéros sont un peu l'exception dans cette série. Donc c'est pas mal, ça nous change.
Tu m'étonnes.
Voilà. Et alors, parmi les classiques problématiques de notre enfance qu'on peut aujourd'hui revisiter avec notre œil intraitable de Grinch ou de Scrooge, je pense qu'on peut citer « Maman, j'ai raté l'avion ». Parce que voilà, où était papa dans cette histoire? On se demande. Et bien, il y a aussi l'indéboulonnable « Le Père Noël est une ordure hein. ». Je pense qu'on va peut-être nous le rediffuser à Noël. Moi, j'attribuerai un point au chandail troué de Thierry Lhermitte, indémodable.
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors.
Mais moins un point pour le personnage tragique de prostituée travestie jouée par Christian Clavier. Aujourd'hui, on dirait plutôt une travailleuse du sexe trans. Mais en tout cas, rien n'allait dans ce personnage. Et alors, plus ancien, il y a aussi le moyen-métrage Le Père Noël a les yeux bleus de Jean Eustache avec Jean-Pierre Léo, notre Antoine Doinel préféré, qui revêt le costume de Père Noël, mais s'en sert pour draguer les filles. Donc, bof.
Mais c'est le festival des choses étranges.
Problématiques. Oui. Et toi?
Ouais, alors moi, j'ai exhumé The Holiday de Nancy Meyers, qui fait partie du panthéon des films doudous de Noël. Il est sorti en 2006. Il y a Cameron Diaz et Kate Winslet dedans.
Attends, mais moi, j'adore Nancy Meyers. Hein. Franchement, je fais partie de la Nancy Meyers Appreciation Society.
En fait, elles sont toutes les deux dégoûtées des mecs. Elles décident d'échanger leur maison pendant les vacances de Noël pour prendre l'air et échapper aux hommes.
C'était donc avant la pandémie.
C'est ça. Elles goûtent enfin à la liberté et au luxe de la solitude. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais bon, les mecs vont quand même ressurgir dans l'équation car l'une va se taper le collègue de l'autre et l'autre, le frère de sa copine d'échange de maison.
Iris et Amanda sont confrontées au même problème.
Je me retrouve seule, déprimée, Noël approche, une solution s'impose.
À 9000 km de distance.
On pourrait échanger
nos maisons et nos voitures.
Oui, tout. Mais avant,
j'ai besoin de savoir
combien il y a dans ta ville
de 10 représentants du sexe masculin.
Parfait.
Alors, il y a des choses très cool. Hein. Franchement, c'est un des vieux films de Noël des années 2000 que je préfère. On sent une tentative d'émancipation de ces femmes. Il y a quelques punchlines qui sont cool où elles arrivent à se défaire justement de l'emprise du regard masculin. Mais bon, il y a des choses qui ont un peu mal vieilli. Les deux personnages sont quand même très lisses. Kate Winslet, que j'adore pourtant, joue une fille très candide qui se morfond sur son amour à sens unique qui dure depuis 3 ans pour un homme qui est insipide. Après, c'est bien sûr pas de sa faute, mais son personnage le trouve assez triste, quoi. Et de son côté, Cameron Diaz va vivre une passion torride avec Jude Law. Donc là, c'est très sexy. Lui, il est dépeint en veuf séduisant, intéressant en termes de représentation. Mais bon, après, c'est pas encore ça côté test de Bechdel, encore une fois. Et surtout, il y a une méga punchline problématique sur les préliminaires où Jude Law demande à Cameron Diaz « Qu'est-ce que tu penses des préliminaires ?» Et elle dit « J'ai toujours pensé que c'était overrated. » Et du coup, le mec lui dit « Ah, t'es vraiment une fille très intéressante. » Genre comme si c'était super sexy de, je sais pas, passer directement à une pénétration.
Ok, enfin, j'en profite pour te pénétrer à sec. Et joyeux Noël.
Non, mais en fait, je me suis dit « Mais mon Dieu, mais si j'avais vu ça à 16 ans, qu'est-ce que j'aurais pensé, quoi ?»
Bon, en tout cas, quand même, grosse passion, petit cottage anglais de Noël, oui, sous la neige.
Ça, on adore.
Dans ce film. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, Kate Winslet est harcelée par son ex. Et c'est pas du tout romantique, en fait. C'est vraiment creepy.
Le mec traverse l'Atlantique pour aller la voir sur son lieu de vacances.
Ah,
alors qu'il a...
au secours, l'enfer.
Ouais, alors qu'il a épousé une autre femme. Mais par contre, le truc cool, c'est qu'elle arrive à le repousser et à lui dire « Dégage, en fait, je suis libre, je me libère de toi. » Et ça, c'est cool.
Et alors, qu'est-ce qu'on a comme autre alternative indé?
Oui, alors on peut aussi prendre le parti, en fait, de regarder du bon cinéma à Noël. Hein. Ce n'est pas une fatalité. Et on peut aller voir du côté de scénarios un peu plus inventifs. Bah, je vais d'abord peut-être parler du dernier épisode spécial Noël, donc de la série teen et trash Euphoria de Sam Levinson, avant la saison 2, où on va retrouver le personnage de Rue, qui est toxico, qui est joué par Zendaya, et qui va discuter pendant presque une heure dans un dinner avec son ami et, entre guillemets, parrain de sobriété, Ali, joué par Coleman Domingo. Et ils vont en fait parler d'addiction, de violence, de ce que ça a créé chez eux, dans leur famille, de sevrage, etc. C'est assez beau, c'est assez lent et statique, mais c'est une très belle discussion, enfin, c'est un bel épisode, donc on peut regarder ça.
The point. Is your sobriety.
Yeah. Mm-hmm. And like finding
an emotional balance, you know.
You just said you found an amazing balance.
Les sujets abordés sont vraiment intéressants et c'est assez subtil et c'est assez complexe, quoi. C'était pas juste des histoires qu'on voit tout le temps. En fait, c'est une belle discussion et une histoire d'amitié aussi. Donc, ça fait du bien. J'avais quelques réserves sur le film, mais on peut quand même recommander pour Noël de regarder l'adaptation des 4 filles du Dr. Marsh de Greta Gerwig, qui peut être une bonne alternative. Et d'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode de Quoi de Meuf qu'on lui a consacré. Et donc, moi, au global, je me suis rendu compte que la plupart des classiques de Noël étaient réalisés par des hommes en préparant cet épisode. Et aussi que certains films, en fait, avaient profondément et insidieusement impacté mes croyances et représentations de la famille ou de ce que devrait être Noël. Et du coup, j'aimerais vraiment, en fait, voir plus de films désopilants sur la famille, pas forcément des chefs-d'œuvre ou des drames, mais du feel-good inclusif et un peu plus piquant. Voilà, moi, c'est mon souhait pour 2021, le Noël prochain. Et toi, est-ce que t'as un rapport particulier aux films de Noël?
Oui, j'ai les boules. Mais quand j'étais petite, on regardait beaucoup de péplum en fait à Noël. Enfin, c'est ce qui était diffusé, donc moi je me souviens plutôt des gens qui marchent sur la mer rouge et tout ça.
Ah ouais?
Mais oui, bah oui, je suis vieille. Mais de manière générale, c'est vrai que c'est souvent des films assez oppressifs et normatifs, alors que ça devrait être plutôt réconfortant et régressif, surtout en prévision de la période qui s'annonce, donc le début d'année qui est un peu le ventre mou de l'année. Voilà, une période assez morne avec pas grand-chose à l'horizon, à part la Chandeleur ou la Saint-Valentin, au secours. Mais voilà, moi sinon, en général, je regarde souvent les mêmes choses à Noël, comme des adaptations de Jane Austen, par exemple, que je trouve assez chouette. Et sinon, fun fact, sachez également que le classique Baby, It's Cold Outside, qui est composé par Frank Loesser en 1944.
Baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like stars
to
right
break
now.
The spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no, no,
mind
sir.
If I move in closer?
At least I'm gonna say that I try.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't
Oh, baby,
stay.
Don't hold out, baby.
Oh, but it's cold outside.
C'est un titre, un standard qui a été à la fois banni des radios à l'époque, en même temps choyé par les féministes comme étant un hymne de l'empowerment féminin et qui, depuis quelques années, est vraiment pas en odeur de sainteté, justement, toujours chez les féministes. Parce qu'en fait, la chanson parle quand même d'un forceur qui insiste pour rester chez une femme en disant « Ah, il fait froid dehors, est-ce que je peux squatter chez toi ?» Donc non merci, voilà, pas de ça chez nous.
Bah, décidément, Noël... n'est pas toujours pas très inclusif et,
non.
Et cool.
C'est un festival. Bref, on espère que vous passez de bonnes fêtes et attention aux micro-agressions des repas de famille.
Et aux gouttelettes.
Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un épisode collectif spécial qui a été enregistré au Paris Podcast Festival. Vous pouvez également retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode, nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux @quademeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Merci, salut.
Salut!
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Pauline Verdusier.
Mixage Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son, montage et coordination Ashley Tola.